Chapitre 8. Les influences réciproques. Sommaire. Les empreintes du lion d'Androclès à Hugo. Vers isolés. Description de ville perverse. Énumération de noms propres. Les empreintes de Victor Hugo au lion d'Androclès. Il arrive que les tables et Hugo se fassent des empreintes réciproques. Elles semblent lire dans le cerveau du poète et répondre aux préoccupations qui l'assiègent au moment présent, tandis que lui, à son tour, exploite les thèmes qu'elle lui propose et se soumet à leur influence littéraire. De ce que je veux prouver, un lion fera loi. Devinez qui vient répondre le 24 mars 1854 à l'appel des évocateurs. Le lion d'Androclès. Il faut savoir que, un mois auparavant, le 28 février, Victor Hugo avait dédié une longue pièce au lion d'Androclès. Cet animal, avant de hanter le salon, a donc longuement séjourné dans la salle de travail de Marine Terrasse. Mais il y a plus. Comme le lion désirait être interrogé en vers, Hugo le salue par la lecture de la pièce récemment écrite en son honneur. La réponse du lion, fort belle ma foi, est également en vers. Le sujet, le même que celui que le poète avait développé quelques semaines auparavant, c'est-à-dire l'antithèse fondamentale du désert et de la cité, du monstre magnanime, et de l'homme pervers. Même thème. Souvent aussi, mêmes images. Voici une curieuse rencontre d'expressions, rencontre dont le poète fut frappé tout le premier. Les roses des étangs, ces coquettes nocturnes. Vénus, toute la lyre, la nature, 26, pièce du 6 mars 1854. Les fleurs dans les forêts, ces coquettes nocturnes. Le lion, séance du 25 avril 1854. De cette lutte littéraire sur un même sujet entre le lion et le poète, il serait d'ailleurs assez difficile de décider lequel sortit vainqueur, tant l'un et l'autre émule déploient de génie dans l'amplification. Voici, à titre d'exemple, un épisode de ce tournoi magnifique. Il s'agit d'un tableau de Rome perverse, brossé tour à tour par le lion et par Hugo. 1. La ville du lion jersien. Là-bas, une ville effrayante, inondée, de lumière et de sang, volcan par son idée, par ses crimes égouts. Une cité sombre, et qu'on appelle Rome, faisant des monstres dieux, après le dieu fait homme. Palais charnier harem, des temples écroulés reconstruisant le dôme, poussant l'éclat de rime infâme de Sodome derrière Bethléem. Ville devant qui l'œil épouvanté recule, pleine d'un noir fumier, immense comme Hercule. Ville comme Augias, dans la boue et le sang plongeant ses murs sévères, nid de crimes odieux où déjà les Tibères couvaient les Borgias. Victor Hugo. Ne trouves-tu pas que ville et ville à si peu de distance font un mauvais effet? Veux-tu mettre cité, par exemple, à la place de ville?
La table.
Oui. Ses doigts de courtisane usaient dans les orgies le profil des Césars. Cette ville dont crène prostituée, virginité tombée et gloire polluée, veuve de son rayon tandis que Jésus naissait parmi les anges, ordonnait que le monde insultât à ses langues et baisât son haillon. La table, séance du 30 mars 1854. 2. La ville de Victor Hugo. La ville ressemblait à l'univers. C'était cette heure où l'on dirait que toute âme se tait, que tout astre s'éclipse et que le monde change. Rome avait étendu sa pourpre dans sa fange. Rome buvait gai, ivre et la face rougie, et l'odeur du tombeau sortait de cette orgie. Toute honte à présent était la bienvenue. Messaline en riant se mettait toute nue, et sur le lit public, lascive se couchait, Épaphrodite avait un homme pour hochet. Saignant, fumant, hideux ce charnier de géant, semblait fait pour pourrir le squelette du monde. Le noir gouffre, cloaque au fond, ouvrait son arche, où croulait toute Rome, et dans l'immense égout, le César d'aujourd'hui heurtait celui d'hier. Et l'on voyait, c'était la veille d'Attila, tout ce que l'on avait eu de sacré jusque-là, palpiter sous son ongle et pendre à ses mâchoires, d'un côté les vertus et de l'autre les gloires. Hugo, 28 février 1854. Le lion reparaît à diverses reprises à Jersey au cours de cette année 1854, notamment le 9 mai. Certaines des expressions qu'il emploie à cette date font écho à des vers écrits 10 jours auparavant par Hugo. Il emprunte par exemple au poète de longues énumérations de noms propres. Il s'agit d'insignes criminels qui expient leurs méfaits dans des métamorphoses appropriées. Est-ce que le chasseur, Nemrod, Sforz, le pâtre? Est-ce que Messaline? Est-ce que Cléopâtre et Phalaris, qui fit du hurlement, seraient dans cette nuit d'hommes devenus spectres et pierres de tyrans? Est-ce que ces cailloux, tout pénétrés de crimes, vivraient affreusement? Hugo, Les Contemplations, pleure dans la nuit, 30 avril 1854. Toi, taureau Goliath, épouvante du pâtre, cèdre Nemrod, bois Nisus, ver Cléopâtre, rhinocéros Caïn, despote devenu les vermines des astres, bœuf Phalaris qui va hurlant sous nos filastres. Le Lion, séance du 9 mai 1854. Nous allons retrouver en octobre 1854, dans « Ce que dit la bouche d'ombre » des Contemplations, une revue criminelle semblable. Alors l'hyène astrée et le chacal Timour, et l'épine Caïphe et le roseau Philate, le volcan Alaric à la gueule écarlate, etc. Aussi bien si le lion de Jersey est tributaire de Hugo, Hugo, de son côté, ne manque pas d'obligation vers cet animal. D'abord, dès le début de l'année 1854, en janvier, le lion avait fait une brève apparition dans la table de Jersey, et les paroles prononcées par lui dans cette circonstance ont certainement été l'annonce de la propre pièce « Au lion d'Androclès » de Hugo, écrite en février. Ensuite, « Les lions » 1857, de la légende des siècles, dérive en partie, par une longue description de ville perse, du discours en vers prononcé à Jersey dans la nuit du 30 mars 1854 par le lion d'Androclès. Discours dont le thème principal est justement la description d'une ville semblable. Enfin, la malédiction des villes va devenir un des thèmes favoris du prophétisme hugolien. À partir de 1853, et pour des raisons faciles à deviner, Hugo, qui croit avoir à se plaindre de la capitale, exerce contre elle sa verve prophétique. Il la charge de tous les crimes de Tyr, de Babylone et de Ninive, et fait pleuvoir sur elle les malédictions que les prophètes suspendaient sur les villes païennes que le lion de Jersey avait dirigées contre Rome. La cité décrite dans Sérigo, 1855, des Contemplations, dans L'Aigle et l'Ange, 1856, du poème Dieu, dans Christ voit ce qui arrivera, 1859, de La fin de Satan, dans Les Lions et La ville disparue, de La légende, c'est Paris, n'en doutez pas, le Paris impérial dans tout l'orgueil et la joie de son opulence, opulence trompeuse et qui présage les pires catastrophes. La ville suivra le sort inévitable de Babylone, de Tyr et de Sodome, mais pas avant d'avoir partagé leur prospérité. Et c'est là, pour le poète-prophète, l'occasion toujours nouvelle et toujours recherchée de décrire ces perversités dorées. Il les décrit avec des traits empruntés à ses lectures anciennes d'Isaïe et d'Ézéchiel, mais aussi à ses plus récents souvenirs des tables de Jersey. Il n'est que de comparer les nombreux tableaux de villes maudites que j'ai reproduits dans la Bible dans Victor Hugo, pages 259 à 271, avec la ville dépeinte par le lion d'Androclès. Les anathèmes contre les villes ne représentent d'ailleurs qu'une part infime de l'influence poétique du lion jersien apparue dans les tables. Cet animal a laissé dans l'œuvre hugolienne des vestiges immenses encore inexplorés. Des pièces entières marquent son passage. Au lion d'Androclès, légende des siècles, les lions, Ibide, les lions de paix aux hommes de guerre, Ibide, Androclès, les quatre vents, l'épopée du lion, art d'être grand-père, le campéador, toute la lyre, la pièce suite de la pensée, Ibide, la méridienne du lion, chanson des R et des B. Mais la présence du lion jersien ne se manifeste pas seulement dans les pièces dont il remplit le cadre. Il va et vient dans les arrière-plans obscurs de l'imagination hugolienne. La moindre excitation suffit pour le tirer un instant de l'ombre et l'amener là, devant nous, en pleine lumière. 1854. Et le lion songeait sous les étoiles. Contemplation, pleure dans la nuit. Et l'antre où les lions songent près des prophètes. Fin de Satan, page 266. Entre parenthèses, Dieu vit dans les lions comme dans Daniel, Ibid. L'inconsciente hantise du lion jersien se traduit d'une autre façon encore chez Hugo dans son vocabulaire. À partir de 1854, c'est-à-dire après la visite du lion d'Androclès à Jersey, les fauves se multiplient, pullulent. L'adjectif est employé dans un sens métaphorique. C'est justement dans certains vers dictés par la table que se rencontre pour la première fois cette acceptation figurée. 1854, 9 février. Calmant par son regard les fauves passions, c'est le grand Daniel de la fosse au lion. L'étable, page 199, 18 février. Entre parenthèses et, l'océan fauve ajoute. Légende des siècles, l'océan. Mars. Abrutissement fauve et fou, terreur géhenne. Fin de Satan, page 45. Juin. Il allait au hasard dans la nature fauve. Légende des siècles, tout le passé et tout l'avenir. Octobre. Oui, ton fauve est le forçat de Dieu. Les contemplations, ce que dit la bouche d'ombre. 22 novembre. Sur le fauve Liban, conseillaient les prophètes. Les quatre vents, le livre satirique, littérature. 1855. Dans leur fauve horreur, les contemplations, j'aime l'araignée. 1856. Les fauves promeneurs rôdant dans les batailles. Légende des siècles, parole dans l'épreuve. 1857. Et ce roi fauve avait trouvé bon que cet antre. Légende des siècles, les lions. Jadis, quand il avait sa fauve liberté. Ibid. 1859. L'esprit de l'Orestie avait un fauve bruit. Légende des siècles, la vision d'où est sorti ce livre. 1859-1860. La menace qu'on sent dans les lieux noirs sembla plus fauve. Fin de Satan, page 277. Le discours en vers du lion de Jersey, dans la séance du 25 avril 1854, nous offre un cas de rencontre littéraire plus curieuse encore. Il ne s'agit plus d'emprunt mutuel qui suppose l'antériorité d'une production par rapport à l'autre. Il s'agit de création simultanée. Rappelons-nous que le lion improvise. Un tel effort ne doit pas aller sans quelque fatigue. Et l'on conçoit que la dictée de son long poème n'ait pas été faite d'affilée. Elle se répartit entre plusieurs séances et trahisse parfois quelques hésitations. Or, un soir, justement, au cours de son improvisation superbe, notre lion s'est interrompu, hésitant. Il était en train de vitupérer les lions domestiqués qui, non contents d'accepter d'être esclaves, consentent à devenir les complices des lâchetés humaines et à se faire, dans l'arène, les bourreaux des martyrs. Et, monstres qu'on repaît de massacre et de honte, géants apprivoisés sur qui l'opprobre monte, sans cœur et sans esprit, ils levaient sur les seins leurs pattes sacrilèges et leurs ongles saignants s'enfonçaient vives. C'est moi qui souligne les deux vers précédents. Ils ne satisfont pas l'esprit frappeur. Il va les refaire et terminer sa strophe. Mais pendant l'interruption, qui a duré quelques minutes, Hugo, de son côté, s'est mis au travail et il a écrit les trois vers suivants qu'il ne montre à personne autre qu'à Auguste Vaquerie. Ils déchiraient les seins expirants sur la claie et leurs ongles hideux élargissaient la plaie au flanc de Jésus-Christ. Presque aussitôt, la table s'est remise en mouvement et a terminé la strophe ainsi, presque dans les mêmes termes que Hugo. Leurs pattes déchiraient les martyrs sur les claies et Jésus-Christ prenait leurs ongles dans ses plaies, ô gibet pour tes clous. Notez que Vaquerie ne figurait point parmi les opérateurs. C'était Charles Hugo et Théophile Guérin qui, ce soir-là, imposaient les mains au guéridon. Aussitôt connus les vers de la table, Hugo a lu les siens tout haut. On s'est récrié. Madame Hugo, à la table. Est-ce que tu as lu les vers de mon mari avant de faire les tiens? Non. Séance du 25 avril 1854. Déjà, le 25 janvier précédent, une émulation presque semblable avait mis aux prises Shakespeare et Hugo. Shakespeare dictait des vers par la table. Morts, nous nous écartons, humbles sous les étoiles, nous nous cachons rêveurs derrière nos tombeaux, et là, nous regardons l'immensité sans voile. Ici, la table s'interrompit et pria Hugo de composer le dernier vers de la strophe, pendant qu'elle-même préparerait le sien de son côté. 3 ou 4 minutes après, Hugo proposait son vers. L'astre éternel éteint, les terrestres flambeaux. Puis la table dit le sien, sur nos astres éteints allumés, ces flambeaux. Et, sur une question de Hugo, elle lui répondait, « J'aime mieux ton vers. » Si donc les tables ont subi profondément l'ascendant de Victor Hugo, non moins profonde sans doute, fut l'influence exercée par elle sur lui, et dans tous les domaines de sa pensée, de sa vie et de son art. Il nous reste à traiter à part cette question avec tous les développements que comporte son importance.